Merci pour ces chants. La voie est ouverte. Nous pouvons maintenant aller vers le Seigneur. Je vais prier pour vous, avec vous. On va se lever et puis on va invoquer le Christ, éternel, parole de Dieu qui ne change pas. Nous t'appelons Seigneur à notre secours, car sans toi nous pouvons parler, nous pouvons chanter, mais sans toi rien ne réussit, rien ne nous sort de notre mort. Mais tu es là. Depuis que tu es venu sur terre, tu parles à chaque être humain et tu dis « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donne-nous ce repos dans la compréhension de ce grand mystère de la croix et de la résurrection. Au nom de Jésus. » Amen. Je vous invite à vous asseoir et puis on va faire une lecture dans l'Évangile selon Jean. Vous écoutez si vous n'avez pas la Bible. La Bible, ça se lit, ça s'écoute, ça s'entend. C'est dans Jean chapitre 12, verset 20. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, c'est-à-dire à un apôtre de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec instance et supplication, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, un autre apôtre, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, mais c'est à cause de vous. On continue. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Amen. Je vous adresse à nouveau mes salutations. Et puis, ensemble, on va aller doucement dans cette petite méditation, prédication, sur le grain de blé. Au départ, il y a des Grecs qui ont fait la route, c'est la fête à Jérusalem, et on venait de toute la région, depuis Rome jusqu'à la Grèce, jusqu'à l'Égypte, on allait à Jérusalem. Et puis, dans ces gens-là, il y avait des Grecs qui voulaient voir Jésus. Ça sert à quoi ? Ce n'est pas un spectacle, Jésus. Ce n'est pas un film. Voir Jésus. Ça veut dire que les nations frappent à la porte de Jésus. Les peuples du monde frappent à la porte du royaume de Dieu. Jésus n'a pas dit oui tout de suite. Il n'a pas dit non non plus. Il a dit ni oui ni non. Il a simplement dit, il faut d'abord que le Christ soit élevé, mis en croix pour que la porte soit ouverte. J'apprends beaucoup de choses avec vous. j'apprends que la clé du ciel, c'est la croix. Une petite fille, un jour, de l'école du dimanche, le catéchisme, si vous voulez, elle avait expliqué comme ça la croix. La croix, c'est la clé. C'est beau, hein ? C'est la clé du ciel. Donc, il faut d'abord que le Christ soit en croix pour qu'il puisse attirer et faire passer les hommes dans son royaume et qu'ils le voient. Et puis, donne une autre image, il faut que le grain de blé, c'est l'image, la même image, il faut que le grain de blé tombe dans la terre et meure pour que la porte s'ouvre. J'entends beaucoup de choses sur la croix de Jésus, mais il aurait pu faire autrement. Pourquoi son père l'a laissé comme ça? C'est pas humain. Non, c'est divin. Ça nous dépasse. Je vous en parle très brièvement à travers cette parabole très simple du grain de blé. Jésus va expliquer le pourquoi de sa mort. Parce que si le grain de blé est dans votre poche, il n'y aura pas de résultat. Si votre grain de blé est dans un vase, il n'y a pas de résultat. Il faut que le grain de blé soit dans la terre, pas dessus, dans la terre, et que là, il laisse ses enveloppes. Il y a des enveloppes qui partent, et là, il meurt, et il se transforme en épi de blé. Cela signifie que croire que Jésus est descendu, ce n'est pas suffisant. Croire qu'il s'est incarné, ce n'est pas suffisant. Croire qu'il est venu habiter chez nous, ce n'est pas suffisant. Croire qu'il a habité parmi nous, comme nous, ce n'est pas suffisant. Parce que dans tout ça, il est toujours hors de nous. Et il n'est pas en nous. Il n'est pas pour nous. Voyez-vous la différence ? Il faut qu'il descende tout au fond de nous et là, c'est seulement lui qui peut le faire. Alors, Dieu a sauvé le monde en deux étapes. On voit souvent une étape et pas bien l'autre. Première étape, l'incarnation. Vous connaissez l'incarnation ? Il est devenu, il ne s'est pas habillé en homme, il est devenu homme. Il s'est transformé. Première étape, c'est déjà magnifique, dans le sein de Marie. C'est un immense miracle. Dieu qui devient un grain dans le ventre d'une jeune fille. Deuxième miracle, le grain de blé doit mourir. Autrement dit, Jésus doit passer par une autre étape qui s'appelle la mort. Il doit descendre parmi nous et descendre dans la mort et descendre dans notre vie pour qu'il puisse y avoir vraiment le salut. Vous savez, Jésus a beaucoup parlé dans l'Évangile avec ses apôtres, il y avait des magnifiques enseignements, il y avait des paraboles merveilleuses, la parabole du fils prodigue, la parabole du berger qui cherche son mouton, enfin beaucoup de belles paraboles, mais malgré tout ce qu'il a dit, vous le savez, au pied de la croix il y avait un apôtre, pas deux, un. Malgré tout ce qu'il a dit, eh bien, on a crié très fort le matin de Pâques, enfin le matin du Vendredi Saint, on a crié très fort, crucifie-le. Malgré tout ce qu'il a dit, on a l'impression qu'il n'avait rien retenu. Dieu n'a pas seulement sauvé le monde avec sa parole, il a sauvé le monde par le don de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a parlé. Oui, mais il a surtout donné. Sinon, s'il n'y a pas la mort dans cette histoire-là, on cherche la mort de personne, eh bien, c'est un Dieu incarné, très bien, oui, on y croit. Dieu s'est incarné, c'est un grand homme. On fera des films sur lui, on fera des conférences, on fera des études, des discours. Mais Jésus ne nous rejoint pas dans notre mal profond. Jésus ne nous délivre pas du mal qui est au fond de nous et qui s'appelle la mort. Il faut qu'il aille plus loin que l'incarnation et la grandeur de ce Dieu devenu homme. Et Jésus, il explique tout cela par cette petite parabole du grain de blé. Le grain de blé qui va mourir, qui est jeté en terre, ça c'est l'incarnation, qui est élevé de terre, ça c'est la résurrection, ce petit grain de blé qui doit mourir. Et Jésus, là, il explique pourquoi il doit mourir. Ce n'est pas une erreur judiciaire, ce n'est pas une erreur des Romains ou des Juifs ou des Grecs. Il meurt, Jésus a dit, nous l'avons lu, pour porter beaucoup de fruits. Le fruit, c'est nous, c'est vous, c'est l'Église, ce sont les croyants. Il meurt pour qu'il ne soit pas seul dans le ciel, mais qu'il ait un peuple de milliards d'êtres humains qui ont cru en lui. Il se donne pour donner la vie. Mais c'est une loi de la nature, c'est une loi universelle. Dans la nature, on sème des graines et puis on récolte des tomates, par exemple. On récolte du blé. On sème pour récolter. Il y a les semailles, il l'a souvent dit Jésus dans ses paraboles, il y a les semailles et la moisson. C'est une loi de partout. Et puis c'est aussi une loi de la vie humaine. Celui qui donne sa vie, pas forcément en mourant, mais qu'il donne de sa vie, de son temps, de ses forces, il valorise sa vie. Sinon, si on ne donne jamais rien, comme parfois on l'entendait, chacun pour soi, si on ne donne jamais rien, on se condamne à justement l'infécondité. On n'est pas fécond, on ne donne pas. Si on ne donne pas, on se condamne à la fragilité. Si on ne donne pas, on se condamne à l'isolement. C'est probablement une des lois les plus profondes, les plus importantes de la vie humaine. Celui qui donne sa vie la sauve. Alors, il y a des professions qui sont encore plus adaptées, parce que je pense au personnel soignant dans les hôpitaux, évidemment. Je pense aux pompiers, je pense aux instituteurs, aux maîtres, aux professeurs qui donnent, je pense aux parents qui donnent. Quand on donne, on sauve sa vie. Dieu nous a créés comme ça. Et celui qui se replie sur lui-même, il dépérit. Donc, c'est une loi de la nature. On sème une graine, il pousse un légume. C'est une loi de la vie humaine. On donne et on se valorise, on valorise sa vie. Et c'est une loi du royaume de Dieu. Le don de soi, Dieu l'a pratiqué. Vous connaissez ce verset de la Bible ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, après, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est sérieux, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a eu un don. Dieu s'est donné. Il a donné l'univers, magnifique, mais il s'est donné. Et ça, c'est le plus important. Il s'est donné. Donc, il faut que le grain meure. Je vais aller plus loin. Il faut que Jésus meure. Ça ne vous choque pas que je vous dise ça? Il faut que Jésus meure. Parce que s'il meurt, il y aura beaucoup de fruits. Beaucoup de gens qui seront libérés de leurs entraves, de leurs chaînes, de leurs aveuglements. Beaucoup de gens auront accès à son royaume, à sa vie éternelle. Il disait, quand je serai élevé de terre, c'est-à-dire la croix. Élevé de terre, ça voulait dire à l'époque être mis sur un poteau qui s'appelle la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai les hommes à moi. Il y a donc une attraction. Vous avez déjà joué, quand vous étiez enfant peut-être, avec un aimant. Un aimant sur la table avec de la limaille de fer. Et vous avez remarqué que la limaille de fer, elle est aspirée, loup, attirée par l'aimant. Bon, si j'ai mis un aimant là, je ne vais pas attirer toute la limaille de fer de Rennes, évidemment. Mais quand on est tout près, ça attire. Jésus, donc, dans sa mort, a une puissance d'attraction. Pas de séduction, hein. Une puissance sans violence, sans contrainte. Il y a comme une conviction, il y a un appel, une force qui nous attire à lui. Jésus disait que celui qui veut, vienne, il peut venir. Si tu veux, tu peux venir. Puissance de la parole de Dieu. J'attirerai tous les hommes. Tous sont attirés. Il y a une attraction qui dépasse notre imagination. Et pour moi, je vais vous surprendre. Je pense que c'est la plus grande évolution de l'homme. Je ne pense pas vraiment que nous soyons venus du poisson. Je ne pense pas vraiment que nous soyons venus des serpents ou du singe. Je crois que Dieu a créé l'homme, homme, et il a créé le singe, singe. Et c'est très bien, il a parfaitement fait les choses. Mais, je vais vous surprendre, je pense qu'il y a une évolution de l'être humain. Parce que l'être humain, tel que Dieu l'a créé, vous, moi, nous sommes appelés à nous transformer et à devenir semblables à lui. C'est une évolution. Ça ne va pas prendre 500 milliards d'années. Vous savez combien de temps ça va prendre? Montre en main. On y va? Toc, une seconde. C'est une évolution rapide. Oui, nous sommes appelés à devenir semblables, parole des apôtres, apôtre Jean, semblables à lui. On a l'impression que nous sommes appelés à être divinisés, parce qu'on va ressembler à Dieu et à Jésus. Mais on ne sera pas Dieu, mais on lui ressemblera. Alors, sa mort va nous libérer de toutes nos entraves de la terre, et puis qui nous empêche d'aller vers lui, qui nous rende aveugles et captifs et malheureux. Ils vont nous libérer. Le Seigneur nous libère de tout ça. Et puis, dernier moment, voilà, on partira et nous serons semblables à lui. Ça va? C'est beau, hein? On ne peut rien dire. Simplement, merci Seigneur. Alors, je rappelle cette parole, quand je serai élevé de terre. Élevé de terre, ça signifie, je le répète, la croix. Il a été élevé à peut-être à 2 mètres ou 1 mètre 50 au-dessus de la terre. Élevé de terre, ça veut dire aussi la résurrection, qui va élever Jésus très haut. L'ascension, bah oui, l'ascension. Son règne éternel, c'est ça, élevé. Et en montant vers Dieu, il entraîne avec lui toute la famille. Nous et nos enfants qui vont s'ouvrir à la grâce de Dieu. Et tout ça, c'est le grain qui sort de terre et qui entraîne avec lui tellement de gens. Ne pensez pas que le Christ va vers la mort avec joie. Ne le croyez pas. Pourtant, il dit « il faut ». C'est nécessaire. Dans l'Évangile, il y a souvent des « il faut ». ».« Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison », dit-il à Zachée. Mais ne croyez pas qu'il y va avec joie, puisqu'il a dit dans cette prière que nous avons lue, « Père, délivre-moi de cette heure, l'heure de mourir ». Il l'a dit. Ce qui montre le combat, notre combat. Le combat devant la souffrance, la maladie, la mort. Notre mort et la mort des autres. Il y a un combat. Nous avons lu dans l'Évangile également que son âme était troublée. Père, mon âme est troublée. Ce qui montre qu'il a une angoisse et qu'il n'est pas au-dessus des combats intérieurs, qui n'est pas au-dessus des tentations. Il y a une angoisse, mon âme est troublée. Avant de mourir, dans le jardin de Gethsémané, il y a eu l'angoisse, il y a eu l'agonie, il a été troublé, il avait besoin de ses apôtres qui n'étaient pas extraordinaires ce jour-là, qui étaient fatigués, voilà. Il a eu besoin de leur présence pour se réconforter. Donc il n'est pas au-dessus de nous dans ce grand combat. Alors il va mourir, mais pas en chantant, il porte vraiment le poids de la mort et de la souffrance. Il disait, mais si je voulais, je pourrais appeler mon père qui me donnerait 12 légions d'anges. Vous connaissez l'histoire. 12 légions d'anges. Une légion, c'est 6000 hommes. La légion des Romains, hein, on parle des Romains. Là. 6000 hommes, multiplié par 12, 72 000. Alors Jésus veut dire, je pourrais appeler mon père qui me donnerait à l'instant même 72 000 anges. Ouf, c'est une armée. Avec ça, Jésus n'a rien à craindre. Mais Jésus a dit non. Je ne demanderai pas à mon père 72 000 anges. Je renonce à tout. C'est ça la mort de Jésus. Ce n'est pas seulement mourir dans la terre. La mort de Jésus, c'est renoncer. Mais quand on renonce, c'est un peu une petite mort. Quelque chose nous ferait plaisir, quelque chose nous est enlevé, on est privé. C'est une mort. La seule prière qu'il a faite, ce n'est pas « délivre-moi », seule prière qu'il a faite, « glorifie ton nom », c'est-à-dire que cette histoire, que cette magnifique histoire, que ce projet extraordinaire soit connu. Et que cette histoire appelle beaucoup de gens, beaucoup de Bretons, et que de partout dans le monde, on puisse venir jusqu'à toi. Parce que l'histoire du grain, vous savez, qui meurt et qui donne la vie à tout. Puis ce n'est pas seulement la vie des gens, mais au moment où Jésus meurt, le prince du monde, Jésus le dit, là, on l'a lu, le prince de ce monde est jeté dehors. Ouf! Prince de ce monde, c'est Satan. Et ce jour-là, Satan a été vaincu. Le Christ nous a arrachés de son pouvoir. Nous sommes maintenant libérés. On peut croire. On peut aller vers le Seigneur. Alors, s'il n'y avait pas cette mort de Jésus, cette mort du grain de blé, cette mort de Jésus qui descend en terre, Jésus resterait seul. Et nous, tout en bas, on resterait seul aussi sans lui. Et nous resterions dans nos péchés. Et Jésus, là-haut, serait... Non, j'ai failli dire qu'il serait heureux tout seul. Non, on n'est jamais heureux quand on est seul. Il a aimé le monde. Et le bonheur de Jésus, c'est nous. La joie de Jésus, c'est nous. Mais pas nous seulement... en nous regardant de son balcon, en train de ramer sur le lac et ne pas avancer. C'est nous avec lui, nous habités par Jésus, éclairés par Jésus. Alors, pour conclure, de qui aurais-je peur, puisqu'il est avec moi, quand la barque bouge sur mes chemins où le brigand m'attend, quand le lion me menace ou le serpent? Il est toujours avec moi, parce qu'il est descendu en terre, il est descendu, il reste comme un défenseur, comme le vivant qui donne de la vie. Quand je partirai, quand je fermerai mes yeux à ce monde, il me dira certainement, je fais tout pour, bon et fidèle, bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous avez un peu compris l'histoire? Il y a un homme qui a dit, qui a résumé l'histoire, et pourtant ce n'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Un homme de la Bible, qui a jugé Jésus légèrement, Caïphe, qui était sacrificateur, et il a reçu Jésus de haut, Il a déchiré ses vêtements, il a dit cet homme est un imposteur, il blasphème. Caïphe. Et vous savez ce qu'il a dit, Caïphe, quelques heures avant la mort de Jésus? Il a dit quelque chose, j'ai l'impression, non, j'ai pas l'impression, il a prophétisé. Il a dit quelque chose sans réaliser la portée de ses paroles. Il a dit, il est plus intéressant qu'un seul homme meure plutôt que tout le pays. Parce qu'il avait peur que les Romains après viennent et puis mettent le bazar partout, la guerre. Il faut mieux qu'un seul meure, Jésus, pouf, plutôt que tout le pays. Caïphe, tu as dit malgré toi, peut-être dans ta bêtise, sans le réaliser, tu as dit une grande vérité. Faut mieux que Jésus meure que toute la France. Faut mieux que Jésus meure que votre famille et toutes les familles du monde. Faut mieux que lui meure pour nous sauver. Amen. Ça va? C'est beau ou c'est pas beau? Dans le prophète Ésaïe, que j'aime beaucoup, c'est un homme exceptionnel par son message. Il a dit, Dieu a fait retomber sur lui la faute de nous tous. C'est pourquoi il est mort. Il a fait retomber sur lui. La faute, ça veut dire la culpabilité, la saleté du péché. Et il a fait retomber sur lui le châtiment du péché. Dans le péché, il y a deux choses. La culpabilité, je suis sale. Et le châtiment, tout ça, c'était sur Jésus, le grain, Jésus qui meurt. Pour nous dire maintenant, la parabole des conviés, venez, tout est prêt. J'ai préparé mon festin, venez à mes noces, je vous appelle, ne craignez pas, ne regardez pas derrière vous, marchez droit et le Seigneur sera avec vous. Vous n'êtes pas seul, Dieu vous prend par la main, il vous tient et... épaule contre épaule, vous n'êtes jamais seul. Amen. Je prie le Seigneur pour vous. Je vais prier. Nous inclinons nos têtes ensemble quelques instants. Il faut le redire, cette histoire. Il ne faut pas aller trop vite. Souvent, je demande aux gens, mais savez-vous pourquoi il est mort? Pour nos péchés. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et pourquoi? Pour nos péchés. Je vous ai donné un petit aperçu, mais continuez, lisez les Saintes Écritures, laissez-vous convaincre, laissez-vous former, laissez-vous toucher. Dieu est votre ami, c'est votre pont pour aller vers lui, c'est votre chemin, c'est votre vie. Je prie pour vous. À quel autre irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que tu as fait, personne ne pouvait le faire. Parce qu'il fallait être parfait, et tu es parfait. Et il fallait être éternel, et tu es éternel. Ce que tu as fait, c'est notre plus grand trésor. Au ciel, sur la terre, nous n'avons rien de plus grand que toi. Tu es l'âme de notre âme. Tu es le souffle de notre vie. Tu es le Christ, Dieu qui nous rejoint. Sur le chemin des cimetières, des souffrances, des solitudes, tu nous rejoins. Tu es à notre taille, grain de blé. Tu t'es mis à notre niveau, mais tu as été élevé pour nous élever jusqu'au Père. Merci pour cette attirance que j'ai eue dans mon enfance, que d'autres ont eue ici et partout. Merci pour cette attirance, j'attirerai. Attire-nous, attire-moi encore et d'autres. Merci de toucher les malades au milieu de nous, les handicapés, les malheureux, des hommes qui sont vaincus par quelque chose, quelqu'un, le passé ou l'avenir. Seigneur, reste avec nous. Amen.